Bonjour mes frères et sœurs. Je vais vous faire une lecture dans 2 Corinthiens 6, 3, 10. 2 Corinthiens 6, 3, 10. C'est Paul qui parle et qui dit « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Jésus, je te prie de tout mon cœur pour que tu nous montres quelle est la chose la plus importante que nous avons à vivre ici-bas, à être ici-bas, à accomplir ici-bas. Je te le demande dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Aide-moi à prêcher ce message correctement. Merci, mon Dieu. Amen. J'ai regardé les infos. Comme vous, j'ai vu ce qui s'est passé à Berlin. J'ai vu ce qui s'est passé avec l'ambassadeur russe. J'ai vu toutes ces choses, j'ai vu aussi en Suisse, j'ai vu. Nous vivons un temps difficile. Ça se précipite. Les choses se précipitent. Dimanche passé, je vous parlais de l'ennemi qui, sous le premier sceau, part pour vaincre avec un arc. Et je vous faisais remarquer que le texte biblique ne disait pas qu'il avait des flèches. Je pense que s'il avait eu des flèches, la Bible aurait parlé, mais comme la Bible ne parle pas, à mon avis, il n'avait pas de flèches. Et je pensais à tout ça en voyant ces gens armés qui tuent, qui massacrent. Et puis je pensais à ce texte que je viens de vous lire qui nous dit que l'apôtre Paul, il était dans des difficultés, des problèmes, des accusations, des calomnies, des persécutions. Et il utilisait les armes offensives et défensives, mais toujours par amour, toujours avec amour. Et je pensais à ça et je me suis dit que beaucoup de chrétiens actuellement ont des arcs. Ils sont très bruyants avec leurs arcs. Sur le net, devant leur clavier, devant leur écran, voilà, devant leur micro, ou dans des réunions d'église, ils sont là. Mais en fait, ils ressemblent un petit peu au diable, parce qu'ils ont des armes, mais ils ne s'en servent pas comme des maîtres. C'est vrai que nous avons à revêtir les armes de Dieu. Vous connaissez tout ce passage, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous lire encore tout ce passage, vous connaissez. Certains ont, je dirais, des arcs et des flèches, mais leur façon d'utiliser leur arc et leur flèche est étrange. J'explique. Je ne crois pas du tout qu'un homme ou une femme puisse se forger une réputation d'archer accompli, parce que là, il est quand même question, il dit dans la, au milieu de la mauvaise ou de la bonne réputation. Donc la réputation, c'est quelque chose, bien sûr, on peut vous salir et vous faire une mauvaise réputation, mais il faut faire attention aussi que, faut pas dire non plus, je suis persécuté, mais j'ai une mauvaise réputation, les gens m'ont taillé une mauvaise réputation, alors que nous sommes peut-être responsables de ça. Et je vois que beaucoup, il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse se forger une réputation d'archer accompli, vous voyez, avec l'arc et les flèches, c'est-à-dire de disciple accompli dans l'art de tirer des flèches, parce que nous avons à tirer des flèches, en tirant sur des murs vides, blancs, et puis en allant ensuite dessiner des cibles autour des flèches, tirer et ficher dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai mis dans le mille. Oui, bien sûr, tu as tiré n'importe où, puis après, n'importe comment, puis après, tu as mis une cible autour, puis tu dis, j'ai atteint la cible. Je crois que nous devons apprendre l'art d'atteindre la cible et mettre dans le mille avec nos armes offensives et défensives que Dieu nous a données. Connaissez-vous des personnes ou êtes-vous vous-même une personne qui tire d'abord et qui dessine la cible ensuite? Posez-vous la question. Beaucoup de prédicateurs font ça. Beaucoup de chrétiens font ça. En tant que membres du corps de Christ, combien ont tendance à s'attacher à des sujets controversés et même à des points de doctrine qui leur semblent intéressants, importants, ou qui tout simplement leur plaisent à eux. Et puis, c'est leur cheval de bataille. Je les vois, je les entends, et je me dis que ils sont en train de dessiner des cibles autour d'eux pour se faire croire à eux-mêmes qu'ils visent ce qui est le plus important dans l'Évangile. Ça, c'est facile à faire. Bien sûr, on a tous des choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres. Moi, par exemple, là, dernièrement, je vous ai encore prêché sur les sept âges de l'Église, les sept sceaux, parce que c'est quelque chose d'important. C'est vrai que c'est important, nous vivons dans les derniers temps, c'est vrai, mais j'en fais pas un toc, c'est-à-dire, je sais pas, un trouble obsessionnel là-dessus. Toc, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif. Vous avez des chrétiens, ils ont un trouble obsessionnel compulsif. Ils reviennent toujours sur le même truc. Tout le temps. J'ai souvent prêché, par exemple, pour le baptême pour les morts, parce que c'est quelque chose de très important, et puis ça n'est prêché nulle part, enfin presque nulle part, donc je me dis que de temps en temps, tous les 6 mois, ça vaut la peine de revenir là-dessus. Mais est-ce que c'est ma cible? Est-ce que c'est vraiment la cible number one? Ou sur la vie abondante? Il y a tellement de gens qui sont dans la misère et qui ont besoin d'entendre la prédication de la vie abondante. Mais est-ce que c'est ça le centre de l'Évangile? Mes frères et sœurs, je ne soutiens pas que toutes ces choses que je dis, qui sont une particularité de mon ministère, soient le centre de l'Évangile. Les religieux, ils adorent faire ça un jour. Les érudits religieux ont tenté d'impliquer Jésus dans une controverse. Alors ils l'ont demandé de se prononcer sur un problème au sujet duquel peu de gens arrivaient à se mettre d'accord. C'est un bon truc pour, je sais pas, faire mousser le machin, ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Bon. On sait tous ce que Jésus leur a répondu, je vous le redis quand même parce que c'est très beau, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voilà le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez, écoutez bien cette dernière phrase. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous voyez, non seulement Jésus nous montre la cible, mais il nous montre aussi, il nous indique le mille, c'est-à-dire le centre. Quand nous avons fait la paix avec Dieu, quand nous nous sommes convertis, quand nous nous sommes repentis, quand nous sommes entrés dans son Église, quand nous avons fait alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Mais dans cette alliance, elle comporte implicitement notre accord de nous efforcer d'apprendre à connaître Dieu, de l'aimer, de faire grandir notre foi en lui, de l'honorer, de marcher dans ses voies, de témoigner de lui avec constance, voilà. Et puis alors, nous apprenons, et en fait, plus nous apprenons sur le Seigneur notre Dieu, et plus nous prenons conscience que le sacrifice parfait de Jésus est le don divin. C'est un don d'amour, vous savez. L'amour de Dieu nous incite à emprunter le chemin du vrai repentir, parce que le péché, c'est pas quelque chose qu'on fait avec amour. L'amour de Dieu nous incite à emprunter le chemin du vrai repentir qui conduit au miracle du pardon. C'est vrai, mes frères et sœurs. Et c'est un processus, le processus qui nous permet d'avoir ensuite nous-mêmes de la compassion, d'avoir un plus grand amour pour ceux qui nous entourent. Et nous apprenons à voir, à regarder au-delà des préjugés, nous arrivons à résister à cette tentation de toujours accuser les autres, si ce n'est pas ma faute, s'il n'avait pas dit ça, s'il n'avait pas fait ça, voilà. On arrive à résister à la tentation de juger toujours la faiblesse des autres, de juger leurs péchés, leurs manquements, ou leurs convictions religieuses, puis être... Enfin, quand on s'applique à être fidèle à notre engagement, frères et sœurs, nous arrivons à voir les autres comme Dieu les voit. Dieu ne voit pas tout le monde parfait, mais il voit tout le monde en train de chercher le mieux, pas soupçonner le mal. Nous tendons la main aux autres, avec compassion, avec amour. Même à ceux qui ne sont pas particulièrement faciles à aimer. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous consolons ceux qui ont besoin de consolation. Quand on se met simplement à vivre ce que Jésus nous invite à vivre, son enseignement qu'on trouve dans la Bible, beaucoup de gens trouvent les « il faut pas faire ci, il faut pas faire ça », il y a tellement de choses à faire que Jésus dit qu'on peut faire, qu'on doit faire. Quand on se met tout simplement à faire ce que Jésus nous invite à faire, à vivre, on se rend compte que on n'a pas besoin de se tourmenter au sujet de la cible correcte de l'Évangile. On fait tout simplement tout au nom du Seigneur Jésus, et donc nous le faisons avec la marque de l'amour. On ne peut pas faire quelque chose au nom de Jésus si ce n'est pas fait dans l'amour. C'est simple. Les deux commandements sont la cible. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si nous acceptons ça, toutes les autres choses vont se mettre en place. Et un jour, un frère qui m'a dit « Mais Michel, tu prêches avec conviction au sujet du baptême pour les morts, mais si c'était faux, si tu avais tort, tu te rends compte? Comment tu vas te présenter devant Dieu après avoir fait toutes ces choses-là si c'est une hérésie ?» J'ai dit, mon frère, Si je me trompe, ben je me trompe par amour. Parce que ce que je fais là en me faisant baptiser pour à la place des morts, ben je le fais par amour. Je ne crois pas que Dieu m'en voudra d'avoir fait quelque chose par amour, même. Bon, si c'est faux, ben voilà. C'était pas pour me faire du pognon, c'était pas pour me faire remarquer, c'était pas pour être pour avoir la gloire, c'était uniquement par souci pour ces gens qui sont dans le séjour des morts, et voilà, c'était par amour. Il était étonné par ma réponse. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si on accepte ça, toutes les autres choses vont se mettre en place. On va tout faire par amour. Parce que tout ce qu'on va trouver à faire, bon, on va le faire par amour et non pas parce que c'est une doctrine, ou parce que c'est une loi, ou parce que le bon pasteur a dit qu'il fallait le faire. Et on va le faire même si notre Église dit que c'est pas bien, que c'est une hérésie. Vous voyez, quand je me suis converti, je me rappelle toujours, j'étais jeune converti, ça devait être en 70, et puis j'étais à l'école biblique, et puis je me suis aperçu que j'avais besoin d'une concordance biblique. Vous savez, c'est un bouquin dans lequel sont répertoriés tous les mots par ordre alphabétique, tous les mots qui sont dans la Bible, et puis si vous cherchez le mot baptême, si vous cherchez un verset sur le baptême, ben, vous allez dans la concordance biblique, sur le mot baptême, c'est comme un dictionnaire, mais vous trouvez tous les versets, n'est-ce pas, par ordre chronologique, dans ce livre, vous trouvez facilement ensuite dans la Bible les textes. Donc j'avais besoin d'une concordance puisque j'étais à l'école biblique et je devais étudier la Bible. Alors je vais à la librairie chrétienne, elle n'existe plus cette librairie, ils ont déménagé. Puis j'arrive là, puis j'étais tout content parce que c'était une belle librairie et puis... Moi, je venais de ma Suisse où il n'y avait pas une si grande librairie chrétienne, donc j'étais tout content. Je disais, ah, c'est formidable, c'est super et tout. Et puis, il a bien vu que j'étais jeune converti, le monsieur. Et il me demande, ça fait longtemps que vous êtes converti? Je dis, non, ça ne fait pas très longtemps. Puis je raconte mon témoignage, que je me suis converti avec Raphaël, le gitan et tout. Et puis, il me regarde avec un air bizarre, puis se tourne vers son collègue, puis dit, oui, non, mais t'inquiète pas, C'est vrai qu'il y a des choses étranges, mais Dieu, il y a aussi des vraies conversions dans ces milieux sataniques. La gifle que j'ai prise. Il considérait que ces milieux pentecôtistes, c'était des milieux sataniques. C'est dingue. C'est dingue. Ça m'a fait de la peine. Puis après, je me suis dit, mais il faut réfléchir quand même. L'amour. Si t'as pas la même doctrine que moi, t'es satanique. On n'entend que ça sur YouTube, partout. C'est pour ça que je ne veux pas être sur YouTube. Très peu. Oh, mon Dieu. Ça suffit comme ça. Hein. Vous voyez, mes frères et sœurs, si notre objectif, nos pensées et nos efforts premiers tendent à augmenter notre amour pour Dieu et à tourner notre cœur vers les autres, on peut être certain d'avoir trouvé la bonne cible et de viser en plein milieu. C'est ça le vrai, c'est ça qui est juste. Qu'est-ce que c'est le centre de votre cible? C'est quoi le centre de ta cible? Mon frère, ma sœur, c'est de devenir un vrai disciple de Jésus. Et un vrai disciple de Jésus, c'est pas celui qui a la vraie doctrine. Un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui a tellement d'amour que Dieu peut se servir de lui. Vous savez, Paul le dit, il dit, voilà, il y a les dons spirituels. Alors il parle, parler en langue, prophétie, don de guérison, don de... d'interprétation des langues, le don de discernement des esprits, enfin, il y a 9 dons surnaturels, puis après tout d'un coup, ça saute, il y a chapitre 13. C'est dommage qu'il y a un bonhomme qui a mis qui a coupé cette lettre en mettant des chapitres. Bon, c'est bien pratique, mais des fois on s'arrête puis on ne lit pas la suite. Et l'apôtre Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellence, c'est-à-dire une voie pour recevoir et manifester ses dons. Et ça devient le merveilleux chapitre 13 d'un Corinthien qui nous parle de l'amour, l'amour. Si vous n'aimez pas les malades, c'est normal que vous n'arriviez pas à les guérir au nom de Jésus. Si vous n'aimez pas l'Église, c'est normal que vous ne prophétisiez pas pour édifier l'Église. Si vous n'aimez pas les gens tourmentés, c'est normal que vous ne cherchiez pas le don de discernement des esprits, etc., etc., etc. Vous voyez ? C'est par amour. On fait les choses par... C'est pas qu'on doit, mais ça devrait être normal. On fait les choses par amour quand on est chrétien. L'autre soir, j'étais invité chez des amis, des très chers amis, des gens que j'aime beaucoup. Mais au dernier moment, j'ai appris qu'ils avaient invité quelqu'un qui me déteste. Ouh là là, j'ai dit, c'est quoi ce traquenard ? Ouh là là, je sens que je vais encore avoir des problèmes. Et j'ai dit à ma femme, oh, non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, ça va être terrible. Et l'ami qui nous a invités a passé nous voir. Puis j'ai dit, tu sais, le premier truc qui me crispe, la première parole qui va dire et qui me... Je t'avertis tout de suite, je me lève et je fiche le camp. Il me dit, tu ne ferais pas ça, je croyais que tu m'aimais davantage. C'est bien qu'il m'ait dit ça, parce que ça m'aurait fait... Une fois qu'il est parti, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Là, je veux protéger ma petite personne, tout ça. Alors qu'il a la gentillesse de m'inviter. Allez, j'y vais. J'y suis allé. Et cette personne qui ne m'aime pas du tout était là. Ça a été une excellente soirée. Excellente soirée. Vous voyez, il faut faire les choses par amour. On a le droit d'être tenté de réagir d'une manière un peu dure et tout, mais on peut aussi se repentir d'avoir eu ce désir et puis dire, non, je vais faire par amour. Je vais faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais faire par amour. Et quand on fait ça, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, vous avez des armes offensives, vous avez des armes défensives. Alors, faites comme l'apôtre Paul, il dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ils se rendent recommandables comment ? Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voyez-vous, nous arrivons à la fin de cette année 2016. On a survécu, hein, à cette terrible année 2016. On a survécu. Alors maintenant, prenons conscience de tout ça et... Cherchons à ne pas scandaliser les gens, quoi que ce soit, et soyons remplis d'amour. Et ça ne veut pas dire d'être bête et de se laisser marcher sur la tête. Non, nous avons aussi des armes offensives, hein, et défensives. Mais utilisons avec amour. Et comme ça, on ne manquera pas les cibles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci pour ce message qui m'a fait du bien et qui fait du bien, je suis sûr, à certains. Merci Seigneur Dieu. Sois béni, mon Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Ah, et puis alors dimanche, c'est Nicolas Savadogo qui prêche, hein. Au revoir.